Des moments perdus remontent à la surface comme des sacs de voyage et des sièges d'avion après un crash en mer, sans logique apparente, sinon que chaque flash lui rappelle ce plaisir qu'il a pris à infliger la souffrance aux autres.
J'étais dans l'idée d'écrire un polar avec plusieurs intrigues qui s'entremêlent, un certain nombre de personnages et un peu des références aux enquêtes scientifiques, les recherches d'ADN, etc. Et l'intrigue était assez complexe à ficeler quand j'ai fini de mettre un peu tout bout à bout, et avant même d'écrire. Et je me suis dit, si je place ça ailleurs qu'à Rennes, je vais me paumer. La ville que je connais le mieux au monde, même si j'ai vécu ailleurs, c'est Rennes. Et donc je suis parti d'un point de vue pratique. Et ensuite, quand on connaît relativement bien Rennes comme moi je suis arrivé étudiant ici en 75, j'ai quand même vécu des tas de choses dans cette ville. J'ai fréquenté ou vu de loin certains milieux un peu intrigants. Et il y a des lieux, en particulier le Tabor, moi qui m'a toujours paru être un lieu extrêmement romanesque et donc qui est un peu central dans mon livre. Bon, je fais un peu de politique par ailleurs et j'ai aussi travaillé à la mairie de Rennes pendant 3 ans. J'ai eu un bureau et j'ai été à même de me confronter aux problématiques de sécurité. J'ai rencontré des policiers. J'ai sympathisé avec un moniteur de sport de combat qui travaille beaucoup avec la police. Et donc voilà, j'ai commencé à tisser des liens au travers de lui avec certains policiers. Et j'ai appris des choses voilà, sur la nuit rennaise, sur des faits divers qui ne sont pas toujours dans la presse. J'ai aussi discuté avec des pompiers à l'époque. Et les pompiers sont souvent également en première ligne des choses qui peuvent se passer. Et puis au moment où j'ai décidé vraiment d'écrire le livre, c'est-à-dire il y a 4 ans, on m'a mis en relation avec un enquêteur de police en retraite, donc Patrick Jézéquel. Et à partir de là, lui, il a suivi un peu tout le processus. Par un autre policier, j'ai pu aller visiter le commissariat de Rennes pendant une partie de la nuit. Donc ils ont été très, très accueillants, très cool. Et certains connaissaient mon passé de musicien, et donc c'était plutôt marrant. Enfin voilà, il y en a qui avaient fait droit à une époque, fac de droit, et ils connaissaient certaines de mes productions. Car il y a des policiers qui sont aussi d'anciens étudiants, donc voilà, c'était pas une découverte pour moi, mais c'était amusant de voir qu'on peut aussi venir un peu des mêmes écuries, entre guillemets, quoi.
Et ça reflue depuis l'enfance. Un chat aux yeux crevés, un camarade en pleurs, le nez en sang. Dans ce kaléidoscope morbide, il croise à nouveau le regard perdu de sa vie d'an et entend le Turc gémir. Astrid, d'un an son aînée, devine les choses cachées derrière les apparences. La jolie brunette est capable d'élaborer des théories étonnantes pour son âge. Elle ne peut contraindre son imagination vers des sentiers déjà balisés.
J'ai déjà écrit des romans noirs, mais les personnages principaux n'étaient pas policiers. À partir du moment où on se base dans un commissariat, on fait comme la plupart des gens qui écrivent des polars en France ou ailleurs, et on est obligé de traîner avec la police, d'aller au commissariat, et après les procédures de garde à vue, d'ouverture d'instruction, c'est extrêmement complexe pour moi qui n'ai pas fait droit. Et du coup, là aussi, on a vraiment besoin d'être chapeauté. Enfin, dans un roman comme ça, il y a des psychopathes en vadrouille, il y a des tas de choses qui se passent et qui sont hors du quotidien habituel de la ville, je pense, enfin j'espère. Mais néanmoins, il faut les maintenir dans un cadre qui soit, à mon sens, le plus réaliste possible. Et donc là, de ce point de vue-là, je pense que oui, c'est très, très réaliste, j'espère. Je m'intéressais en parallèle depuis quelque temps à toutes les nouvelles croyances spiritualistes qui, dans le monde occidental, ont tendance à remplacer les religions habituelles, on va dire, donc tout ce qui tourne autour des croyances New Age. Ayant moi-même vécu longtemps en Portugal, j'ai été confronté, j'ai été mis face à enfin, je suis rentré en contact avec des musiciens qui pratiquaient des formes de vaudou, des formes d'animisme, qui venaient un peu de toutes les colonies portugaises. Ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis rendu compte que, voilà, en Europe, aux États-Unis, ces religions qu'on dit plus spiritualistes, donc ça va avec certaines formes de bouddhisme aussi, ça prenait beaucoup d'importance. Et donc ça m'intéressait de replacer ces phénomènes-là dans la ville de Rennes, où ils existent aussi. Et donc je me suis intéressé plus précisément à la théosophie. Alors, la théosophie, c'est un mouvement spiritualiste donc du 19e qui est né aux États-Unis, avec une grande prêtresse et philosophe qui s'appelait Helena Blavatsky. Et la théosophie est une espèce de syncrétisme du bouddhisme à destination des Occidentaux. Et ce sont des livres très très intéressants. Je m'y suis intéressé parce que j'ai vécu donc au Portugal. Et là-bas, je suis tombé en admiration et plus devant l'œuvre de Fernando Pessoa. Et Fernando Pessoa était membre de la société de théosophie, parce que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà, je me suis intéressé à ces mouvements de pensée qui mettent le karma, le karma et la réincarnation au centre de leur perspective. Et je suis assez moi-même, je suis pas baptisé, moi je tiens à préciser, je suis né en Centre-Bretagne, mais non baptisé, ce qui était assez rare dans le coin d'où je viens. Et les religions extrême-orientales m'ont toujours plus parlé en réalité que ce qu'on appelle les religions révélées. Donc j'ai eu envie d'évoquer ça dans le livre.
Est-ce que vous pensez que justement notre intérêt pour les religions orientales vient du fait qu'on se désintéresse de nos anciennes pratiques, de nos anciennes religions ?
Oui, je pense, parce qu'elles ont pris pour certaines des points de vue fondamentalistes qui font qu'une partie de la jeunesse, que ce soit avec l'islam ou la religion catholique, le fondamentalisme, et puis les rites très écrits et l'idée aussi qu'on doit craindre Dieu et qu'il y aura un péché originel, je pense que pour tout un tas de gens, sont des choses pas concevables, que voilà, la religion est quelque chose... Enfin, si tant est qu'on croit à quelque chose, mais qui doit ouvrir, amener les gens à aller vers les autres et à devenir un peu curieux de tout. Et donc ces religions-là qui se sont figées dans des formes de dogmes, comme le catholicisme et l'islam, on fait qu'une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse bien sûr, se sont tournées vers des choses depuis longtemps, depuis même le mouvement hippie, il faut remonter jusque-là. Avec les Beatles, hein, l'hindouisme, le bouddhisme, enfin voilà, et c'est plutôt intéressant. Après, en Bretagne, on a eu, avant l'arrivée des saints fondateurs chrétiens d'Irlande et du Pays de Galles, donc qui eux étaient catholiques, on a eu ici des religions qu'on appelle païennes et qui présente aussi un certain intérêt, des liens avec les croyances des Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, qui sont aussi des croyances très intéressantes, parce que ce sont des religions qui rejoignent d'une certaine manière une forme d'écologie. Un peu comme le protestantisme l'a fait à un moment, qui permettent à chacun d'avoir une évolution qui ne soit pas complètement figée par des textes ou une hiérarchie religieuse très très à cheval sur les principes, etc. Et je pense que la religion, ça peut être ça aussi. C'est vraiment plus le fruit d'une recherche personnelle, et le syncrétisme qui est cher aux théosophes, c'est-à-dire d'aller piquer, prendre à droite à gauche ce qui nous plaît, parce que finalement, de toute façon, on n'aura a priori pas d'explication avant longtemps, avant de passer de l'autre côté ou pas. Et voilà, donc c'est à chacun de se faire son opinion.
Alors du coup, vous avez écrit aussi 3 livres avant Vilaine blessure. Et c'est des polars. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans ce genre littéraire?
Le premier en fait était sorti chez Flammarion en 2005. Et c'est pas un polar, c'est ce qu'ils appelaient eux un road novel qui se passait entre l'Orient et une petite ville aux États-Unis. Et il y avait quand même une espèce d'enquête psychologique à résoudre de la part du personnage principal. Le deuxième roman a été influencé par ma vie à Lisbonne, parce que ça se passait à Lisbonne, tout simplement. Et on était dans une espèce de polar vaguement mystique, déjà. Et le troisième était un vrai roman noir, Voici mon sang, qui là se déroulait à Paris et dans le milieu des maisons de disques des majors parisiennes que je connais bien, avec un directeur artistique qui était un peu obsédé sexuel et qui finissait par avoir des mauvaises fréquentations et ça finissait par lui coûter cher. Mais à aucun moment les policiers on croisait des policiers, mais les policiers n'étaient pas au centre de c'était pas les personnages centraux. Là, pour la première fois d'ailleurs, j'écris à la troisième personne, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et j'aborde la chose de manière différente. Les 3 premiers romans étaient écrits à la première personne, et donc pour moi c'est vraiment complètement différent comme travail.
C'est un défi que vous êtes lancé
En fait, en parallèle, ces 5 dernières années, parce que j'ai commencé en septembre 2014, et j'ai à peu près fini en septembre 2018, mais après il y a encore eu beaucoup de corrections techniques, etc. Mais pendant tout ce temps, j'ai eu beaucoup d'activités musicales. J'avais un groupe qui s'appelait République, on a fait 2 albums, des concerts. J'ai produit une artiste qui s'appelle Nolwenn Corbel, j'avais composé une partie de l'album aussi. Tout ça avec un label pour lequel je travaille. Et après, il y a eu la formation de Marquis de Sade, qui était le groupe que j'avais il y a une quarantaine d'années. Et alors, la reformation de Marquis de Sade, ça a été aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de boulot, parce qu'on a aussi sorti un album live du concert de Rennes. Et en fait, l'écriture était à la fois une envie, un peu une nécessité, parce que quand on produit des disques ou qu'on est musicien en même temps et qu'on s'occupe un peu de la production exécutive également, on est embringué dans des choses où on dépend énormément des autres, ingénieurs du son, autres musiciens, maisons de disques qui distribuent, graphistes, etc. Et c'est très agréable, le travail collectif, j'aime bien ça, mais l'écriture me permettait par moments d'ouvrir une bulle, de me retrouver devant mon ordinateur, et même si après je devais faire contrôler mon travail par des policiers, des juges, des médecins, au moins j'étais seul, quoi. Et ça faisait pas des vacances, mais presque.
C'était quoi votre référence, justement, en termes d'auteur?
En termes d'auteur, j'ai toujours lu beaucoup, et j'ai dévoré des romans noirs quand j'étais adolescent. Et donc le classique pour moi à l'époque, c'était James Abbey Chase, qui était entre le roman noir un peu capé quand même, et aussi un peu le roman de gare, c'est-à-dire qu'il a dû en écrire, je sais pas, plus de 120, et j'adorais ça. Après, j'ai une période entre 20 et 30 ans où j'ai lu de la littérature classique plutôt, tout ce qui concerne la Beat Generation, des auteurs aussi un peu de Middle Europa, Hermann Hesse, déjà qui était lui très branché sur l'hindouisme et tout ça, des auteurs allemands qui s'intéressaient beaucoup à l'Inde. Et puis je suis revenu au polar et au roman noir j'ai un fonctionnement comme ça très compartimenté, je sais pas pourquoi. Et j'ai découvert James Ellroy vers mes 30 ans. Et là, c'est un plongeon total dans tout ce qu'il a écrit. Et voilà. Bon, ce sont des auteurs massifs, hein, dans le sens positif du terme. Je veux dire, sont des mondes à part, et je me compare évidemment pas à eux. Mais James Ellroy a poussé le roman noir dans d'autres dimensions politiques, sociologiques. Et surtout, j'aime bien chez Ellroy le fait qu'il n'y ait pas... Il n'y a pas un point de vue moral habituel où, en fait, il se fiche de la bien-pensance, et ça me plaisait beaucoup. À partir du moment où on est en contact avec des gens qui dépassent un certain cap et qui font référence à une certaine noirceur qu'on a tous entre, au fond de nous, je pense, ça permet d'aller plus loin que la littérature classique. Moi j'ai le roman descriptif de certains milieux sociaux, le roman bourgeois, les histoires d'amour, il y en a aussi dans mon livre, mais moi ça me fatigue. Et donc là, aller dans les tréfonds de la nature humaine et ce qu'il y a de plus noir, ça me plaît. Le roman noir a beaucoup évolué de toute façon depuis quelques dizaines d'années. Il aborde aussi les aspects politiques d'une manière plus frontale, souvent que la littérature classique depuis quelques temps. Bon, y a des gens comme Houellebecq qui ont des points de vue sur la société qui sont pertinents ou pas, mais au moins qui font réfléchir. Mais autrement, moi, y a beaucoup de romans, en fait, que je commence et je finis pas parce que j'ai envie qu'il se passe plus de choses en réalité, quoi.
Du coup, avec James Ellroy, qui a vu son univers littéraire passer au cinéma, est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions d'adaptation ?
Le premier roman chez Flammarion, là, s'appelait Le Dériveur, et les droits avaient été achetés pour un an. Ça se passe comme ça, là, quelqu'un réserve les droits pour un an, et puis au bout d'un an, l'option n'avait pas été levée parce que la personne qui avait travaillé sur le scénar n'avait pas convaincu les producteurs. Et voilà, donc j'ai quand même eu, pendant quelques temps, j'ai rêvé à l'idée que ça allait devenir un film. J'ai rencontré des gens du cinéma qui s'intéressaient à cette histoire. Et puis, sur le deuxième roman, quelqu'un m'a approché aussi. Ça s'est pas finalisé, mais les mêmes personnes, le même groupe de personnes a maintenant Vilaine Blessure entre les mains. Il se trouve simplement que Vilaine Blessure, c'est beaucoup trop long pour faire un film. Et donc, comme beaucoup d'auteurs, je rêverais d'être adapté en série, c'est-à-dire Vilaine Blessure, si tant est que le livre marche et qu'il plaise, parce qu'en fait, il vient à peine de sortir. C'est plus quelque chose qui peut se faire sur 7 ou 8 épisodes ou quelque chose comme ça. Dans mon roman, il y a peu d'allusions à la musique. Les personnages principaux que je suis n'écoutent pas du tout la même chose que moi. J'avais besoin de créer un peu cette distance. Et puis aussi la manière de canaliser l'inspiration en musique et en littérature. Je trouve que c'est pas pareil quand je prends une guitare ou même si j'aborde des textes de chansons. La source d'inspiration est beaucoup plus diffuse. Ça vient, il faut le saisir. Il y a des jours où rien ne vient, et puis on fait un peu avec ce que les doigts finissent par créer. C'est assez bizarre. Tandis que la littérature, il y a bien sûr un fil d'inspiration, mais on le travaille plus, on le malaxe plus, on prend plus possession de ce flux et on le contrôle mieux à mon avis. Et surtout, avant de s'endormir, quand on écrit un roman comme ça, on passe beaucoup de temps avec les personnages, à les visiter, à façonner, à les laisser un peu parler quand on rentre dans un demi-sommeil, et puis il en reste quelque chose après. Mais la musique, ça fonctionne. Les textes, un petit peu, et encore, parce que moi, quand j'écris des textes en musique, c'est très impressionniste, il n'y a pas vraiment d'histoire. Or là, dans un roman, on est quand même tenu à un processus narratif qui tienne la route, parce que le lecteur, c'est évidemment pas le même format qu'une chanson, et puis il n'y a pas de musique derrière, donc voilà. Non, pour moi c'est vraiment tout à fait séparé. Et j'avais envie de revenir au roman, et je dois dire que j'ai travaillé beaucoup, comme je disais tout à l'heure, dans les trous que laissait la musique, quoi. C'est-à-dire, parfois, ne pas être en répé ou en concert ou en studio pendant 3-4 jours, et je me mettais à fond pendant 3-4 jours. Parfois, je devais laisser l'ouvrage de côté pendant une semaine, mais tous les soirs, avant de m'endormir, je retrouvais les personnages, je retravaillais un petit peu. Et puis c'était aussi parfois trouver des lieux au bord de la mer et partir avec, non pas mon ordinateur portable, parce que je n'aime pas les ordinateurs portables, mais avec mon ordinateur de bureau que je trimballais dans le coffre de ma voiture.
Ordinateur de bureau ?
Oui, oui, parce que je suis pas à l'aise du tout pour écrire sur un ordinateur portable, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai besoin d'être bien assis et d'avoir l'écran à une certaine distance. Et là, je me suis installé dans des appartements ou des maisons au bord de la mer, hors saison, et où parfois je restais une semaine ou 10 jours tout seul. Et là, ça me permettait de faire beaucoup progresser l'histoire. Et puis autrement, ça pouvait être sur des périodes où je faisais autre chose, d'écrire souvent de 6h à 8h du matin, et retourner me coucher une heure ou deux, et après démarrer une journée normale, quoi.
Oui, vous aviez besoin de confort, d'être chez vous pour écrire un roman comme celui-ci.
Oui, je me sens pas capable d'écrire en voyage, et je bouge beaucoup. Et je vous dis, j'ai besoin. Alors, je peux prendre des notes manuscrites aussi, que j'ai souvent du mal à relire d'ailleurs. Je parle aussi dans mon téléphone, j'enregistre des choses, parfois en voiture, des idées qui viennent. Et après, quand je passe au stade de l'écriture un peu plus abouti, j'ai besoin d'un ordinateur confortable. Voilà. En parallèle, là, on démarre l'enregistrement d'un album de Mark Itzad, donc un nouvel album après le dernier est sorti en 1981. Et donc, si on sort un nouvel album début 2020 ou fin 2019, ça serait formidable, mais on prend notre temps parce que on ne veut pas décevoir le public, on ne veut pas se décevoir nous-mêmes, on est exigeant. Et donc, on sait qu'il faut qu'il reste quelque chose du son de l'époque et de l'espèce d'urgence. Donc on a essayé pour la plupart d'entre nous de préserver cette fibre anarcho-punk au fond de nous-mêmes, et je crois qu'on y est plus ou moins parvenu. Et aussi, on doit faire attention que dans ces presque 40 années, il y a eu des tas de choses en musique qui ont été révolutionnaires, des artistes qui nous ont plu. Et qu'on ne va pas évidemment recopier parce qu'on n'a jamais procédé comme ça, mais on doit tenir compte de... Alors on reste dans un format, moi ça m'arrive d'écouter de l'électro et du rap, mais on reste dans un format basse-batterie et deux guitares en termes de composition et de musique. Et donc voilà, il y a eu des choses comme My Bloody Valentine, Nick Cave, voilà, dont on tiendra forcément compte, et Radiohead, et des choses comme ça aussi. Mais voilà, donc ça sonnera comme du Mark Itzad, mais pas des gens qui sont restés coincés dans la jungle comme des soldats japonais après la Deuxième Guerre mondiale. On a vécu, on a écouté, on a fait autre chose. Et je crois que c'est important. Et aussi, là, on essaie de... L'idée, c'était de... Parce que j'ai eu la chance, avec le groupe République, de pouvoir collaborer avec des musiciens américains qui sont des gens pour lesquels j'avais une certaine admiration. Donc, il y a la rythmique de Talking Heads qui a joué sur un des titres. Et donc, on est retourné vers eux. En fait, il se trouve que la bassiste des Talking Heads, quand on a fait ce travail sur l'histoire du rock en Bretagne, Talking Heads, qui était un groupe énorme et extrêmement novateur à la fin des années 70, début des années 80, il se trouve que Tina, la bassiste, qui a aussi vraiment marqué la musique rock américaine de plein de points de vue, elle est bretonne par sa mère. Et on a découvert ça très récemment. Et donc, en fait, il passe une partie de l'été à côté de Paimpol. Et donc, voilà, c'était très drôle, parce que c'était vraiment un de mes groupes préférés, hein, et un jour de savoir que Tina était du coin aussi, c'était amusant. Et donc par eux, on va pouvoir faire venir sur le disque le guitariste soliste de Television, Richard Lloyd, et ça c'est pour moi exceptionnel, plus d'autres stars du rock indie américain. Et voilà, donc il y a une partie des sessions américaines qui vont se faire en avril, entre deux séances de dédicaces, parce que j'ai une 18 ou 20 sessions de dédicaces jusqu'à la mi-mai, Mais j'ai, voilà, ça c'est le côté amusant de faire les deux choses. C'est, je vais avoir cette échappée belle à New York d'une semaine, où je devrais dédicacer aussi d'ailleurs à New York pour l'association des Bretons de New York. En fait, c'est marrant.
Et avant ça, vous, du coup, vous parliez un petit peu des européennes. Quel est votre avis sur le débat européen en ce moment?
Ben, en tant que fédéraliste, je le trouve tristouille parce que... Enfin, voilà, moi je suis autonomiste breton dans une Europe fédérale, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout pour un repli sur la Bretagne. Je suis absolument contre les frontières à l'intérieur de l'Europe. Je trouve que l'euro a été une aventure formidable. Je trouve que les possibilités de parcours en Erasmus, c'est le début de quelque chose. Et quand on voit tous les replis nationalistes ici ou là, et c'est pas comme ça que voilà, on va réussir à faire l'Europe. Mais le problème, c'est vrai qu'il manque un volet social dans l'Europe, c'est clair. Mais aussi, il y a énormément de pays, enfin tous les États-nations en fait ne jouent pas le jeu, parce que il serait intéressant, par exemple, de proposer l'idée d'un véritable passeport européen, c'est-à-dire plus rien d'écrit sauf son adresse évidemment et la mention du pays dans lequel on vit à l'intérieur, mais d'avoir uniquement passeport européen, ça serait un très beau projet. Et je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui seraient très heureux d'avoir un passeport européen, mais comme le patriotisme est quand même, j'en parle un peu dans le livre, ça permet de tenir les gens, d'avoir une sorte de déférence vers un pouvoir qui représente des institutions, etc. Le patriotisme, pour moi, c'est un peu le synonyme d'une intoxication, et cette intoxication-là, ils savent bien qu'on en guérirait un peu si ce passeport européen existait, et du coup, l'idée a déjà été lancée par les jeunes européens et par des gens, c'est pas une idée nouvelle, mais ça va avoir beaucoup de mal à aboutir. Et pourtant, si on veut que l'identité européenne existe, au-delà même de l'Europe sociale, il faudrait que ce passeport européen se mette en place. Donc effectivement, le débat actuel, au moins en France, m'intéresse pas. Je sais que les Corses, les Basques et peut-être quelques Bretons, mais on n'en sera pas probablement, parce que ça coûte très cher, vont présenter une liste des minorités de l'Hexagone. Et donc probablement que je soutiendrai cette démarche faite par les Corses et les Basques. Et puis autrement, on verra. Ce serait bien que pour les Européennes, il puisse y avoir des listes pan-européennes. Alors, il en a été question à un moment, mais je crois que ça a été...
Benoît Hamon a tenté, oui.
Feu de paille, mais ça serait quand même formidable. Les gens pensent que l'Europe est... elle est tellement mal servie par nos politiques, et on lui met tout sur le dos, qu'on oublie que l'Europe a des règles vraiment démocrates à l'intérieur du système même tel qu'il est. Il faut savoir qu'à une époque, les députés européens, par exemple, ils étaient nommés, et ça n'avait aucun sens. Et ce sont des villages, des petites villes italiennes qui ont regardé les règlements européens, et ils se sont rendus compte que si un certain nombre de citoyens européens pouvaient envoyer une pétition au Parlement européen faisant pression pour obtenir quelque chose, ça fonctionne, et c'est à partir de cette pétition lancée par des citoyens italiens qu'on a commencé à voter en Europe. Donc l'Europe, c'est pas cette machine. Alors évidemment que elle est un peu... Elle va dans le sens d'un trop plein de libéralisme, etc. Et ça doit être... il faut essayer d'en faire autre chose, mais il faut se souvenir que c'est un bel outil aussi. Et moi, ayant vécu au Portugal, je sais ce que l'argent européen dont a profité Lisbonne et le Portugal à la fin des années 80 et au début des années 90 a permis énormément de choses. Ça a été pareil pour l'Espagne. Et ça, faut pas l'oublier non plus. En tout cas, ces pays qui ont reçu l'argent de l'Europe du Nord à certaines époques, c'est pas toujours le schéma grec où on vient derrière se faire taper dessus.
Oui, derrière, ils ont vraiment recréé une économie viable.
Ça n'a pas toujours été simple. Ça va mieux, le Portugal, j'en reviens, j'y étais passé quelques jours. En tout cas, ils se sentent vraiment, vraiment européens. C'est agréable de voir ça. Je veux dire, tout le monde n'a pas cette vision de l'Europe négative qui est souvent celle qu'on a dans l'Hexagone. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout pas du tout ma vision de l'Europe. Je sais qu'elle doit s'améliorer, mais je sais que si les gens regardaient bien, il y a des possibilités de levier démocratique au sein des textes qui existent déjà. Mon troisième fer au feu, c'est la politique. Donc on a monté.
Parti breton.
Alors j'étais au Parti breton et on a monté un mouvement parallèle, on va dire différent, Braise Europa, qui insiste plus, enfin, qui est un mouvement autonomiste breton, mais qui insiste plus sur le côté fédéraliste européen, parce que comme on le disait déjà avec Marc Itsad il y a 40 ans, on se sentait profondément européen. Et citoyen du monde, ça, on ne ferme pas les écoutilles, c'est pas ça du tout, mais moi l'identité européenne me concerne, parce que j'ai écouté plus de musique anglaise que de musique française, j'ai lu plus de littérature allemande que de littérature française, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu et travaillé au Portugal pendant plusieurs années, et je me sens réellement portugais aussi, et donc voilà, cette identité européenne dans Braise Europa, elle est présente. Donc ça prend beaucoup de temps, et en fait depuis 10 ans, j'ai du mal à prendre des vacances, des vraies vacances. Et c'est vrai que ça peut commencer à non pas à poser problème, mais j'aimerais bien peut-être dans 6 mois, dans 1 an, me dire tiens, je fais rien pendant un mois. Ça. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais, on va appeler ça la glande, mais je pouvais être un très très bon glandeur. Enfin, j'aimais bien, j'étais juste guitariste après avoir rompu avec les études. Et il m'arrivait de rien faire pendant une semaine et j'appréciais ça. Et donc j'aimerais bien, là maintenant passé 60 ans, redécouvrir l'art de la glande. Voilà.
Le besoin de s'ennuyer peut-être, ce jour-là.
Oui, peut-être. Mais il y a aussi une chose, c'est que quand on est un peu saltimbanque comme moi et qu'en même temps on essaie de produire ses propres... Ben là j'ai un éditeur, bien sûr. Mon label est distribué par Universal, donc c'est confortable. Mais on s'engage aussi quand même financièrement, on met ses billes dans certains projets. Et après, une fois qu'on a mis le doigt, on ne peut plus s'arrêter parce que la banque appelle. C'est-à-dire que je suis aussi, entre guillemets, un petit peu un businessman en musique. Et là, on met le pied dans quelque chose où vous pouvez pas vous arrêter. Vous devez faire souvent, le dimanche est consacré à la comptabilité du label. Et voilà. Et c'est vrai qu'à un moment... En fait, si quelque chose, si quand le disque de Marc Itsad sera abouti, et si le roman marche un peu, il y a malgré tout les élections municipales rennaises en mars. On va commencer à travailler dessus sérieusement à partir de septembre. Mais voilà, peut-être que fin 2020, je vais pouvoir partir faire un petit tour du monde, j'en sais rien, j'espère.